Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Métamorphose de âme et ses symboles » de Carl Gustav Jung. Est un essai fondateur de psychologie analytique, paru initialement en 1912, puis fortement remanié dans ses éditions ultérieures. Partir des productions imaginaires de Miss Miller, jeune américaine, dont les résumés et poèmes avaient été rapportés par Théodore Flournoy. Jung examine la manière dont des images intimes rejoignent des motifs mythologiques, religieux et poétiques très anciens. Le livre appartient à la fois à la psychanalyse, à la psychologie des symboles et aux sciences humaines comparatives. Son objectif central est de montrer que la vie psychique ne peut pas être comprise seulement par la biographie individuelle ou par la sexualité infantile. Les images inconscientes manifestent aussi des structures collectives, que Jung conceptualisera comme archétypes. Ouvrage dense, souvent érudit, il marque la séparation intellectuelle entre Jung et Freud et prépare les bases de la psychologie analytique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le cas Miss Miller comme point de départ vers une psychologie comparative. Jung construit son analyse à partir des rêveries, poèmes et fantaisies de Miss Miller, publiées auparavant par Théodore Flournoy. Ce matériau est limitaire, fragmentaire et non produit dans le cadre classique de la cure, mais Jung y voit une occasion méthodologique. Il ne cherche pas seulement à expliquer une personne par son histoire privée. Il observe que certaines images surgies dans un état proche de la rêverie présentent des correspondances avec des mythes. Des récits religieux et des motifs littéraires issus de cultures différentes. Le cas individuel devient ainsi un laboratoire pour étudier la formation spontanée des symboles. Cette démarche est caractéristique de Jung, une image psychique vaut moins comme indice isolat que comme nœud de relation entre expériences personnelles. Héritage culturel et structure profonde de l'imagination humaine. Le livre ne doit donc pas être lu comme une simple étude clinique au sens moderne. Il opère plutôt un déplacement, depuis la pathologie individuelle vers une enquête sur les formes universelles par lesquelles la psyché exprime conflit, désir, danger et transformation. Deuxièmement, la libido repensée comme énergie psychique et non comme pulsion uniquement sexuelle, un des enjeux majeurs du livre est la redéfinition de la libido. Jung se sépare progressivement de la conception freudienne dominante, qui accordait une place centrale à la sexualité et au complexe oedipien dans l'explication de la vie psychique. Sans nier l'importance des tendances sexuelles, Jung estime que la libido doit être comprise plus largement comme énergie psychique capable de se déplacer, de se symboliser et de se transformer. Cette énergie peut prendre des formes religieuses, héroïques, créatrices, sacrificielles ou spirituelles. Le titre même insiste sur la métamorphose, ce qui apparaît dans un rêve, un poème ou une vision ne traduit pas toujours directement un désir sexuel refoulé, mais peut représenter une orientation de la psyché vers une nouvelle organisation. Ce changement théorique explique la portée historique de l'ouvrage. Jung ne propose pas seulement une variation de la psychanalyse freudienne. Il ouvre un autre modèle, dans lequel la dynamique intérieure se lie à travers des images de croissance, de conflit avec les origines, de mort symbolique et de renaissance. Troisièmement, inconscient collectif et archétype comme structure de production symbolique. Métamorphose de âme et ses symboles préparent la formulation jungienne d'inconscient collectif. Jung observe que des images proches apparaissent dans des productions individuelles, des mythes antiques, des traditions religieuses et des récits héroïques. Pour expliquer cette récurrence, il avance que la psyché humaine ne contient pas seulement des souvenirs personnels refoulés. Elle comporte aussi des dispositions collectives à organiser expériences selon certaines formes fondamentales. Les archétypes ne sont pas des images fixes transmises comme des souvenirs précis. Ils sont plutôt des schèmes de représentation qui se manifestent sous des figures variables mère, héros, enfant divin, renaissance, monstre, sacrifice. Cette distinction est importante, car elle évite de réduire la théorie à une collection de symboles universels simplifiés. Pour Jung, le symbole vivant ne se comprend que dans une situation psychique concrète, mais sa force vient du fait qu'il dépasse le vécu individuel. Le livre montre ainsi pourquoi certains motifs produisent une impression de profondeur, il relie la crise personnelle à des formes collectives très anciennes de l'expérience humaine. Quatrièmement, mythes de la mère, du héros et de la renaissance comme scène de transformation intérieure. Une grande partie de l'ouvrage analyse des motifs tels que la mère, la naissance du héros, la lutte pour se libérer d'origine maternelle, la descente, le sacrifice et la renaissance. Ces thèmes ne sont pas abordés comme de simples récits anciens, mais comme des représentations de processus psychiques. La figure maternelle peut signifier protection, origine, attraction vers inconscient, mais aussi risque de régression et de dépendance. Le héros représente alors un mouvement opposé et fort pour se différencier, affronter les forces obscures et conquérir une forme plus autonome de conscience. Le sacrifice indique que toute transformation suppose une perte, souvent celle de position psychique ancienne. La renaissance symbolise la possibilité que la libido, au lieu de rester fixée, trouve une nouvelle orientation. Ce schéma donne au livre une portée plus vaste qu'analyse des roses. Jung montre comment les cultures ont représenté, sous forme mythique, des passages intérieurs que les individus continuent de vivre. Le mythe devient une grammaire imagée des transformations de la psyché. En dernier lieu, une œuvre érudite, puissante, mais difficile à manier sans recul critique. Le livre impressionne par ampleur de ses références mythologie, poésie, religion, folklore, clinique psychiatrique et psychanalyse y sont constamment mises en relation. Cette richesse explique son importance, mais aussi sa difficulté. Jung accumule des parallèles symboliques et suppose parfois que des analogies entre images suffisent à éclairer leur sens psychique. Le lecteur contemporain doit donc distinguer la fécondité interprétative de la démonstration stricte. Sur le plan clinique, l'ouvrage ne fournit pas une méthode simple à appliquer directement. Il demande une solide culture psychologique et une prudence face aux généralisations. Sa valeur réside plutôt dans le changement de perspective, il oblige à considérer les productions imaginaires comme des phénomènes porteurs de sens, et non comme de simples symptômes à réduire. Pour les praticiens, cela encourage une écoute attentive des images récurrentes, des rêves et des mythes personnels du patient. Pour les chercheurs, il montre les promesses et les limites d'une psychologie qui relie individus, culture et histoire symbolique. En conclusion, ce livre convient surtout aux lecteurs déjà familiarisés avec la psychanalyse, la psychologie analytique, l'histoire des religions, la mythologie ou les sciences humaines. Il peut aussi intéresser les thérapeutes qui veulent comprendre pourquoi les images, les rêves et les récits symboliques occupent une place centrale dans la pensée de Jung. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer la lecture de l'inconscient au lieu de réduire les productions psychiques à une biographie privée. Il les inscrit dans une longue mémoire symbolique de l'humanité. Cette approche aide à penser la transformation intérieure comme un processus figuré par des motifs tels que la séparation, la lutte, le sacrifice et la renaissance. Comparé au texte freudien classique, l'ouvrage se distingue par son ambition culturelle et mythologique. Comparé aux études de mythes, il se distingue par son ancrage dans une interrogation clinique et psychologique. Sa difficulté est réel style dense, références nombreuses, raisonnement parfois répétitif, mais cette exigence fait aussi sa singularité. Métamorphose de âme et ses symboles reste un ouvrage charnière, non parce qu'il offre une théorie parfaitement stabilisée, mais parce qu'il montre Jung en train de créer un langage nouveau pour penser les rapports entre psyché individuelle, symbole collectif et transformation profonde de l'existence. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.